Soyez les bienvenus sur Radio Vallée-Vézère. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Radio Vallée-Vézère, votre radio au cœur de la vallée.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Sarlat, votre spécialiste culture, CD, DVD, jeux vidéo et librairie sur plus de 600 mètres carrés au cœur du Périgord noir. Retrouvez votre espace multimédia dans votre hypermarché Leclerc Sarlat, les deux gares. Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Sarlat, 3 rue de la Liberté et sur real-chocolat.com. Réal Chocolat, fait naître la gourmandise.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Radio Vallée-Vézère, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et c'est un sommaire aujourd'hui quelque peu bouleversé par cette crise du coronavirus. On maintient l'émission, quoi qu'il en soit, avec aujourd'hui encore eh bien, quelques beaux invités et puis des mises à l'honneur, voilà, de séries. On va essayer d'avoir recours eh bien, dans les semaines qui viennent à plus de coups de téléphone. Voilà, pour le coup, on va essayer de s'organiser. Toutes les sorties cinéma sont annulées, donc l'équipe de Divorce Club que l'on devait accueillir lundi prochain, bien sûr, s'est reportée également. Pas d'équipe de film aujourd'hui. Également dans l'émission. Mais un beau sommaire qui vous attend avec, dans un instant, Philippe Vasseur et Angèle Vivier pour nous parler des mystères de l'amour, dont la production est arrêtée, mais la diffusion continue sur TMC le week-end, bien sûr à 19h45. Nous allons passer en revue ensemble nos coups de cœur télé de cette semaine avec nos invités aujourd'hui, Louise Monod, qui sera avec nous pour nous parler d'une belle histoire, cette belle série sur France 2 qui nous fait du bien, surtout en ces temps compliqués. Et puis, là, on va avoir besoin de rire, je vous le dis, moi, jeudi prochain sur M6, le Morning Night fait son arrivée. Exit le Morning Live, c'est le Morning Night qui arrive et Michael Youn sera notre invité exceptionnel. Ça va nous faire du bien, là aussi on va décompresser. Une infomédia complètement consacrée eh bien, à cette crise du coronavirus avec quelques infos sur les suspensions de tournage et que va-t-il advenir de certains programmes télé. On vous dit tout, évidemment dans cette infomédia spéciale dans moins d'un quart d'heure. Et puis fin d'émission consacrée au court-métrage Dernière ligne droite qui sera diffusée sur OCS très prochainement. On en parle avec Arnaud Mison et Loïse Martin qui seront avec nous là aussi. Donc vous l'avez compris, c'est quand même un beau programme qui nous attend aujourd'hui. On va passer en revue alors non pas nos audiences de la semaine dernière, mais les audiences médiamétrie des chaînes thématiques du satellite notamment et des box. Elles viennent de tomber et on va tout de suite en faire le détail ensemble avant d'accueillir Philippe Vasseur et Angèle Vivier.
Les tops et flops d'audience.
Et cette semaine, on va faire un point sur les audiences des chaînes thématiques, puisqu'elles sont tombées, elles tombent deux fois par an, et on va savoir quelles sont les chaînes thématiques les plus regardées. Bien par exemple, c'est TV Breads et Paris Première qui ont été les chaînes thématiques les plus regardées entre septembre et mi-février, avec une part d'audience de 0,7% chacune, selon le bilan semestriel de Médiamat Thématique de Médiamétrie. Pour TV Breads, filiale du groupe TF1, habitué des premières marches du podium, c'est un score inchangé sur un an, tandis que c'est une hausse pour Paris Première du groupe M6 qui monte de 0,1 point. Juste derrière, on retrouve RTL9 du groupe Media One avec également une hausse à 0,6%, c'est plus 0,1 point pour RTL9, tout comme Teva qui augmente de 0,1 point à 0,4% de part de marché. Selon ce bilan réalisé sur les 79% de foyers qui reçoivent la télévision par ADSL, satellite, câble ou fibre optique, viennent ensuite Bing Sport, Canal Plus Sport, Ciné Plus Premier, Disney Channel, Polar Plus, Série Club et 13e Rue à chacune 0,3%. Parmi la centaine de chaînes passées en revue, la plupart ont une part d'audience de 0,1 ou 0,2% et pour certaines inférieures à 0,1%, quelques-unes figurent dans le bouquet de base de la plupart des opérateurs comme Disney Channel, Teva, RTL9, TV Breads ou Paris Première, par ailleurs présentes sur la TNT payante, d'où leurs audiences plus importantes. L'audience des chaînes thématiques payantes est mesurée deux fois par an par Médiamétrie et leur part d'audience globale s'est élevée à 12,9% sur le semestre écoulé avec une hausse de 0,8 points sur un an.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, coup de cœur télé dans Chut, on écoute la télé avec Les Mystères de l'amour, votre série du week-end avec Philippe Vasseur qui est justement avec nous. Ça commence très bien. Salut mon Philippe.
Et bonjour, qu'est-ce que tu veux savoir?
Ça va bien Philippe?
Ouais, ça roulait toi.
Ça va très bien, t'es pas venu tout seul en plus. Tu nous as fait une belle surprise, Angèle Vivier qui est avec nous, qui joue le rôle d'Aurélie dans Les Mystères. Bonjour Angèle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Saison 22, est-ce qu'on pouvait imaginer un truc pareil quand en 2010, Patrick vous dit, on y retourne les gars?
Non, déjà en 2010 c'était impressionnant de reprendre, c'était une très bonne idée. Mais là, 10 ans après, non, pas du tout, non. Mais c'est magique depuis 27 ans, c'est magique, c'est tout.
Et toi, qu'arrive dans l'histoire comme ça, voilà, en plein milieu, dans quelque chose qui a démarré en 1992. Angèle, est-ce que tu as regardé, quand tu étais toute petite, déjà la série à la base?
Bien sûr, j'étais assez amoureuse de Nicolas, quand j'étais petite.
Ah, donc ça a changé depuis?
Bah oui, quand même, maintenant c'est un bon ami. Voilà, mais donc du coup je suis très très contente, et c'est vrai que c'est une belle famille, c'est des gens de cœur, et j'aime vraiment tourner avec eux, vraiment.
On sent cette alchimie entre vous tous. Alors on la sentait déjà évidemment à l'époque, mais là on sent vraiment que vous continuez à vous amuser, vous êtes là pour faire plaisir au public aussi qui vous a réclamé pendant tant d'années. Et je crois qu'il vous le rend bien, parce qu'il y a quelques jours, quelques semaines, vous étiez au Festival de Luchon et vous avez signé des autographes pendant plus de 2 heures non-stop.
Ouais, de toute façon, ça c'est depuis le début, hein, cette fidélité, elle a toujours été là. Mais en plus, avec le temps qui passe, on vieillit tous ensemble et c'est un facteur... incroyable de rapprochement, quoi. C'est top.
Angèle, tu te souviens de ta première scène de tournage dans Les Mystères, et tu te souviens avec qui c'était?
Alors, moi j'ai commencé dans une autre série avec Jean-Luc qui s'appelait La Baie des Flamboyants, et il y avait quelques acteurs déjà des Mystères de l'Amour avec nous.
C'était en Guadeloupe, ça, dis donc.
En Guadeloupe, exactement. Donc, je me souviens pas de la toute première scène, mais j'ai des excellents souvenirs avec eux. Et la première scène dans Les Mystères de l'Amour, c'était avec... je crois Hélène. J'arrive, je débarque avec ma valise et j'étais toute contente de rencontrer pour la première fois Hélène, du coup.
Ah oui, c'était une première pour toi?
Tout à fait.
Et alors, ça t'a fait quoi, là?
Je pourrais pas dire. J'étais contente de la rencontrer. Voilà, après, j'ai été contente de découvrir la personne que c'était. Et puis, voilà.
Quels sont les mots les plus touchants? Qu'est-ce qui vous touche le plus quand vous rencontrez, justement, les fans de la série? Toi, Philippe?
Mais moi, ce que j'aime depuis quelques années, c'est qu'il m'appelle Philippe. Et ouais, c'est révélateur sur la relation qu'on a, qui est presque amicale, parce que on a l'impression de se connaître depuis, enfin ils ont l'impression de nous connaître depuis presque 28 ans. Donc c'est un truc qui, ouais, que j'aime beaucoup. C'est bien plus sympa que José. José, c'est le boulot. Philippe, c'est humain. Voilà.
Tu disais que José restera certainement l'un des plus beaux et l'un des seuls rôles de ta vie.
Le plus beau, non, parce que il y a forcément des rôles plus intéressants et plus forts que José, ça c'est clair. Mais je pense que vu le temps qui passe, ça sera sûrement le seul rôle de ma vie. Ouais. Et ça, j'ai dit il y a quelques années et je le pense très sincèrement. Ah ouais. C'est vrai que c'était à une époque où j'ouvrais plus ma gueule, je me suis beaucoup calmé. Mais ouais, bien sûr que je pense. Je pense sans amertume ni quoi que ce soit, parce que j'attends plus rien de personne depuis longtemps. Donc voilà.
Pour toi, Angèle, est-ce que ça ouvre des portes justement ou ça a tendance à plus s'enfermer de jouer dans une série comme Les Mystères de l'Amour?
Alors c'est compliqué, je pense que ça commence à changer, mais c'est vrai que les séries comme ça prennent beaucoup beaucoup d'ampleur, et du coup les directeurs de casting, certains directeurs de casting sont fermés un peu aux acteurs des Mystères de l'Amour parce qu'ils ont déjà un nom, ils ont déjà un rôle, on les identifie déjà. Mais bon, c'est en train de changer et je suis sûre que même Philippe peut faire autre chose.
J'espère vraiment pour vous, la relève de la série, que ça change, mais diamétralement, quoi. Mais parce que c'est vraiment compliqué, hein. C'est très 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 compliqué, et ça j'invente rien, on le dit tous. Et
je pense que je suis sûr que le public, et on en a quelques-uns avec nous là en studio, est prêt à vous voir dans autre chose et rêverait même de vous voir dans autre chose, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Ah oui, il y a des fans hein, aujourd'hui avec nous. Et là, c'est vrai que justement, c'est dommage de pas écouter plus le public, parce que lui est prêt, plus que le métier.
Mais on l'écoute pas, le public. Si, ou alors faut générer des centaines de milliers de je sais pas comment ça s'appelle, de followers, je sais pas, sur des trucs. Là, on se dit tiens, il est bankable, ou bien il y a quelque chose à faire. Mais bon, sinon voilà quoi.
On avait Lakshan et Isabelle qui étaient avec nous il y a quelques jours. Je vais vous poser la même question. Quel est peut-être votre plus beau souvenir de tournage? À vous. Est-ce qu'il y a une scène particulière sur ces 28 ans qui viennent de passer pour toi, Philippe, ou que des fois, bah, tu racontes dans un repas entre potes, tiens, tu te rappelles quand il s'est passé ça? Est-ce qu'il y a une scène particulière qui remonte?
Scène particulière, pas vraiment. Il y en a tellement qui ont été très intenses. Non, moi, je repense surtout j'en reviens toujours au facteur humain. C'est pour moi le plus important. Je repense aux années où on tournait aux Antilles. Et on était vraiment en famille, quoi. Où les filles amenaient leurs enfants et tout. C'était, c'était la Smala. Cette période-là, j'ai vraiment adoré. Vraiment.
C'est marrant parce que c'est ce que Isabelle et Lakshan disaient aussi il y a quelques jours.
Jean-Patrick, il te dira pareil, je pense.
Ça vous manque quelque part de pas tourner là-bas?
Maintenant, j'ai plus trop envie de bouger. Mais de temps en temps, ouais, ça me plairait bien qu'on reparte un peu tous ensemble.
Toi, je suis sûr que t'aimerais bien retourner un peu aux Antilles après la BD flamboyante. T'aimerais bien y retourner là-bas?
Bien sûr, j'adorerais retourner là-bas. J'ai adoré et j'ai passé des moments exceptionnels là-bas. Notamment, j'ai rencontré le père de mon fils qui m'a donc donné mon fils. Donc vraiment, c'était incroyable. On a passé des moments magiques tous ensemble et ce sont des souvenirs incroyables.
Quel va être le fil conducteur d'Aurélie pour cette saison 22? Est-ce qu'on va la voir, voilà, un petit peu plus? Qu'est-ce qui va lui arriver dans les épisodes à venir? Est-ce que voilà, on va la voir dans cette saison 22 en tout cas?
Oui, on la voit. Je sais pas ce qui va se passer. Donc là, je sais ce qui va se passer prochainement, mais je vais peut-être pas le dire. Après, oui, Jean-Luc m'a dit qu'il allait faire plus d'intrigues autour d'Aurélie. On va voir. Et j'aimerais bien. Voilà.
Il lui fait confiance. Il a beaucoup, beaucoup d'inspiration, généralement. Pour José, alors, Cathy?
Moi, j'ai déjà presque trois femmes. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que je vais perdre ma santé. Ça serait pas bien. C'est pas cool.
On dit des fois un couple, un trouple, mais là c'est un quadruple quoi.
C'est une équipe de foot. D'ailleurs je compte monter une équipe de foot féminin.
Oui, ça c'est drôle, un film avec une équipe de foot féminine du coup.
Ouais, ça c'est cool.
Avec toutes les femmes que t'as eues dans l'émissaire de l'amour, dans Hélène et les garçons, dans le miracle, dans les vacances, tout le monde quoi.
Ouais, il faudrait un quart. Hein.
Et bien voilà, et en plus franchement il t'a gâté quand même Jean-Luc pendant ses 28 ans.
Ah, je suis ravi. La magie ou le pif de Jean-Luc, je sais pas, ou les deux, il tombe sur des bonnes personnes. Encore une fois, le facteur humain, ma petite famille, je parle pas de ma famille de l'ensemble de la série, je parle de la petite famille du studio photo, Cathy machin. Ils sont tous les quatre là, tous les trois, ils sont formidables. Julie Chevalier et Elliot Delage et Cathy Andrieux, super.
Elle est contente d'avoir revenir, Cathy, ouais. Parce que il est vrai qu'elle avait fait peu d'épisodes finalement. On avait fait, je crois, 70 à peine l'année des garçons. Donc il est vrai que voilà, ce retour a été presque inespéré.
Et ouais, et on se connaissait mais vraiment pas du tout. Là, on s'est découvert à nos âges respectifs et c'est génial.
Eh bien, en tout cas, plein de beaux retours. Le retour effectivement pour cette saison 22 de Rudy aussi et de Jeanne qui va nous faire espérer de bien belles intrigues. En tout cas, le samedi et le dimanche à 19h45, nous, on est sur TMC. Alors et vous, je sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, nous, on est avec vous. Merci beaucoup Philippe et merci Angèle d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à vous, gros bisous.
On va se quitter avec un petit morceau de vous dans vos œuvres. Tiens, écoutez. Dans un instant, on enchaîne avec l'infomédia, nos coups de cœur télé, puis notre zoom sur Dernière Ligne Droite, le court-métrage avec Arnaud Mison et Loïse Martin en fin d'émission. Alors ne bougez pas, on revient juste après ça, tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Indiscrétion, scoop, news, tout de suite, l'infomédia.
Et l'infomédia de cette semaine est très largement consacrée à cette crise sans précédent du coronavirus, puisque C8 vient de prendre la décision d'annuler immédiatement les tournages de toutes ses émissions en raison de l'épidémie, avec comme objectif de protéger au maximum le personnel de la chaîne, mais aussi le public. Dès aujourd'hui, les tournages donc de Direct Auto, Gym Direct, Les Animaux de la 8, mais aussi l'émission de Eric Nolot, De quoi je me mêle, sont mis donc sur pause. De même, l'émission de William Lémergie réalisée en direct est également suspendue dès aujourd'hui dans le cadre de ces mesures de sécurité. À 7h, C8 décide de ne maintenir que les émissions présentées par Cyril Hanouna en accès et celle de Valérie Benaïm, c'est que de la télé. Autre exception, Balance ton poste qui est également maintenu pour l'instant le jeudi soir avec les chroniqueurs. Mais ces trois émissions sont maintenues sans absolument aucun public. Le Festival de Cannes assure n'avoir pris aucune décision encore sur une éventuelle annulation de sa prochaine édition en mai en raison de l'épidémie de coronavirus et continue d'étudier avec attention et lucidité l'évolution de la situation. Réagissant à un article du Point qui écrit que le Festival de Cannes n'aura pas lieu, l'organisation assure dans une déclaration à l'AFP que malgré certains titres à sensation, il n'y a aucun élément nouveau concernant le festival. La manifestation qui doit avoir lieu du 12 au 23 mai étudie avec attention et lucidité l'évolution nationale et internationale en concertation avec la ville de Cannes et le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Ils prendront ensemble, le moment venu, autour de la mi-avril, la décision qui s'imposera, conclut le texte. De nombreux événements prévus dans le monde du sport, du spectacle et de la culture sont donc annulés chaque jour avec cette interdiction de tout rassemblement dans le pays. Le Festival de Cannes avec le marché international du film qui se tient au même moment rassemble chaque année des dizaines de milliers de professionnels, journalistes et visiteurs venus du monde entier. Et pour sa 63e édition, il a nommé le cinéaste américain Spike Lee comme président du jury. La liste des films en compétition pour la Palme d'Or doit théoriquement être dévoilée lors d'une conférence de presse le 16 avril prochain. Affaire donc à suivre. Le Parisien annonce qu'une série de décisions viennent d'être prises par TF1 en raison de cette crise. Des décisions qui vont fortement impacter les programmes dans les prochaines semaines. Ainsi, le quotidien écrit que le tournage de cette émission de Ninja Warrior, dont une spéciale La France contre le reste du monde était prévue du 7 au 14 avril prochain à Cannes. Toutes ces émissions donc sont annulées ou au mieux reportées au mois de septembre, juste avant que Denis Brognard ne s'envole pour une nouvelle saison de Koh-Lanta en tournage. Financièrement, c'est une grosse perte pour tout le monde, glisse un membre de la production. Autre dossier sensible sur la table des dirigeants de TF1, c'est celui de la suspension du tournage du feuilleton Demain nous appartient, la locomotive du 20h de Gilles Boulot. Les tournages à 7 sont interdits pour une durée d'au moins 2 semaines, mais les épisodes préalablement tournés et montés sont au moins à l'antenne pour 2 semaines, mais la diffusion ne pourra pas tenir plus longtemps puisque le tournage a maximum 6 semaines d'avance sur la diffusion et que la post-production est également arrêtée. France 2 va suspendre la diffusion dès ce soir et les tournages de son feuilleton quotidien dès aujourd'hui de Un si grand soleil en raison des consignes liées donc au coronavirus, a indiqué la chaîne à l'AFP, confirmant une information du Parisien. Suite à cette interdiction gouvernementale concernant les rassemblements de plus de 100 personnes, le tournage d'Un si grand soleil est donc interrompu. Le feuilleton tourné à Montpellier, en plus l'un des foyers les plus actifs du virus. La diffusion d'Un si grand soleil est donc interrompue dès ce soir pour donner aussi la priorité à l'info, poursuit France 2. Le JT de 20h de France 2 sera donc étendu afin de rendre compte pleinement de cette crise du Covid-19. Selon le Parisien, le tournage de Plus belle la vie, lui, pour l'instant sur France 3, devrait se poursuivre, mais sous toute réserve. Alors, affaire à suivre là aussi. Et c'est une annonce faite par Pierre Ménès sur son compte Twitter. La direction de Canal+ a demandé aux journalistes sportifs de ne pas venir sur le plateau du Canal Football Club. Diffusé le dimanche soir, je ne serai pas sur le plateau. La direction estime que c'est un trop grand risque pour une personne à risque comme moi. Après ma greffe, déclare-t-il sur le réseau social, une décision prise alors que l'épidémie touche toute la France. La réalisatrice franco-américaine Toni Marshall, seule femme à avoir remporté le César de la meilleure réalisation pour Vénus Beauté en 2000, est décédée donc jeudi dernier à l'âge de 68 ans, a annoncé son agente Elisabeth Tanner à l'AFP. Toni Marshall est décédée donc des suites d'une longue maladie, fille de l'actrice Micheline Prell et de l'acteur, réalisateur et producteur américain William Marshall. Toni Marshall avait débuté au cinéma comme actrice en 1972 dans l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la lune de Jacques Demy. Elle était passée à la réalisation en 1990 avec une dizaine de longs métrages, dont Vénus Beauté avec Nathalie Baye et Audrey Tautou, son film le plus connu qui lui vaudra plusieurs Césars, dont celui de la meilleure réalisation et du meilleur film. Viendront ensuite au plus près du paradis avec Catherine Deneuve et William Hurt, France Boutique, ou encore son dernier film sur la bataille d'une ingénieure pour prendre la tête d'une entreprise du 440 numéro 1. A noter que la chaîne Arte rendra ce soir hommage à Toni Marshall en rediffusant le film Vénus Beauté. Et la pandémie pandémie de coronavirus touche également les productions américaines, puisque la production de la saison 16 de Grey's Anatomy est donc interrompue pour une durée d'au moins 2 semaines. Par prudence, la production est donc immédiatement reportée. Pour l'instant, le tournage en était à l'épisode 21 de cette saison 16. Et donc, normalement, la production devrait reprendre pour 4 épisodes, mais beaucoup plus tard. Alors, est-ce que la diffusion sera impactée sur TF1? Très certainement aussi, puisque TF1 vient de démarrer la diffusion de cette saison 16 qui pour l'instant donc n'a pas de date de fin de tournage. .org.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et dans nos coups de cœur, on va tout de suite démarrer par ce soir sur M6. C'est L'amour est dans le pré. C'est la suite des portraits des agriculteurs. Vous en avez découvert 7 la semaine dernière. Et bien cette semaine, voici les 6 autres qu'on vous propose tout de suite en bonne annonce.
La semaine prochaine, je vous invite à découvrir les 6 autres cœurs esselés de la saison. Mathieu.
Il a plein d'amour à donner, mais il a beaucoup besoin d'amour à recevoir aussi. Ouais.
Éric le chevrier.
T'es en train de te réveiller, quoi.
Ouais.
C'est le printemps dans ton cœur et dans ton slip.
Ouais, mais il n'a plus 20 ans non plus. C'est plus le printemps.
Jérôme.
La prochaine, grâce à l'amour et dans le pré, elle te dira que t'es beau et tu verras.
Donc je vais beaucoup rougir, là.
Jean-Claude.
S'il n'y a pas le cœur qui fonctionne, parce que je parle avec la personne. Il faut que mon cerveau et mon cœur soient reliés. S'ils ne sont pas reliés, je ne vais pas être efficace.
Laura.
J'ose espérer qu'il y ait une personne qui m'attend. Je me sens prête. C'est mon moment.
Et Lionel.
Toujours des maîtresses femmes en cuir avec des...
Ah ouais, c'est mon nom.
Non, je blague. Je blague.
Premier agriculteur SM.
Et on va découvrir également ce soir la suite des aventures de nos bracelets rouges sur TF1. Alors préparez vos mouchoirs, il va y avoir du rififi, je peux vous dire, pour toute la bande des bracelets rouges. Voici tout de suite un petit extrait en avant-première.
Souvent dans la vie, les gens aiment bien retourner au même restaurant, relire le même livre.
Mes veines sont plus saillantes sur celui-là.
D'accord, pas de soucis, je vais aller voir de l'autre côté. Parce que sinon, on ne sait jamais sur quel plat on va tomber.
Bien, je te pique.
Et si on va aimer l'histoire?
Voilà, c'est bon, le liquide est en train de couler, il y en a environ pour 1 heure. Je reviens te voir après, hein. D'accord?
Ouais, je sais, j'ai l'habitude.
Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Parfois, on y retourne sans en avoir vraiment envie. Parce qu'on n'a pas le choix.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et ce soir, sur France 2, c'est également le grand retour de la série Meurtre au paradis, avec 8 nouveaux épisodes inédits dont vous allez pouvoir découvrir les 2 premiers, avec un casting largement renouvelé après le départ de Joséphine Jobert. Je vous propose tout de suite donc d'écouter la bande-annonce.
Bon, nous voilà au début de l'année 2020, avec une sacrée affaire à résoudre sur les bras.
Nom d'un petit bonhomme.
À pied. En courant, en vélo, en cyclomoteur, en voiture ou en bateau.
Je prendrais bien un petit remontant.
La saison 9 de Meurtre au paradis arrive. Inédit, lundi soir à 21h05 sur France 2.
Est-ce qu'on pourrait m'ouvrir cette cellule, s'il vous plaît?
Ce programme est disponible en version originale sous-titrée.
Et demain sur France 2 à 21h05, c'est Hugo Clément qui nous emmène sur le front des glaciers afin d'éveiller les consciences au réchauffement climatique. Des révélations en surprise, des images à couper le souffle, c'est la promesse d'Hugo Clément pour ce rendez-vous exceptionnel. Voici tout de suite un petit extrait.
Bonsoir et bienvenue sur le front. Nous sommes au Svalbard, un archipel de la Norvège situé très proche du pôle Nord, sur le glacier de Nordenskjoldbreen. Comme tous les glaciers du monde, ce monstre bleu et blanc, impressionnant de puissance, est frappé de plein fouet par le changement climatique. Alors pourquoi faut-il s'intéresser aux bouleversements qui touchent les glaciers et la banquise? Eh bien tout simplement parce que ce monde en apparence lointain, extrême, hostile, est en fait intimement lié à nos vies partout sur la planète et en France bien sûr. Si nous perdons ces boucliers blancs, une partie de la Terre deviendra inhabitable. La situation est grave, mais il faut garder espoir. Il est encore possible de les sauver, Nous partons ensemble ce soir sur le front des glaciers.
Et demain, c'est France 5 qui va programmer un documentaire inédit, PMA GPA, les enfants ont la parole. Qu'est-ce que la normalité pour un enfant né d'une PMA ou d'une GPA? Quel est le regard des autres? Une relation avec sa mère porteuse est-elle possible? Quelle vision ont-ils de leur donneur? Et quels enfants nés d'une PMA ou d'une GPA qui témoignent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce très beau documentaire que je vous conseille demain soir donc sur France 5. Donc voici tout de suite un petit extrait.
Il y a un monsieur, il a donné une graine à ma mère qui m'a fabriquée. C'est simple, non?
En fait, quand j'étais toute petite, je voyais pas vraiment la différence. Du coup, pour moi, toutes les familles étaient comme ça.
Ces enfants sont âgés de 8 à 20 ans. Ce qu'ils ont en commun tient à leur mode de conception même. Ils sont nés de PMA, la procréation médicalement assistée, ou de GPA, la gestation pour autrui.
J'ai deux mamans, pas de papa. On dit souvent que les papas c'est plus sévère, donc c'est mieux d'avoir deux mamans.
Alors qu'une nouvelle histoire de la parentalité tente de trouver sa place en France, ils sont au cœur des débats.
La première question qu'on me pose, c'est comment t'es née? Et la deuxième, c'est répète, j'ai rien compris.
La société parle souvent en leur nom. Aujourd'hui, ce sont eux qui prennent la parole.
Allez, coup de cœur télé consacré cette semaine à nouveau à la série Une belle histoire dont on a vu les deux premiers épisodes mercredi dernier. Et on va continuer à en parler de cette série aujourd'hui avec Louise Monod qui nous a rejoint. Bonjour Louise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va s'attarder un petit peu sur le personnage de Caro et du couple Philippe Caro dans cette série après avoir découvert les deux premiers épisodes et cette rencontre inattendue entre David et Anaïs. Eh bien, on s'aperçoit que tous les couples sont à l'honneur dans cette série. Qu'est-ce qui t'a séduit déjà au premier plan, Louise, dans ce personnage de Caro? Qu'est-ce que t'as aimé chez elle?
J'ai aimé son évolution. J'ai surtout aimé l'intégralité du scénario, pour dire la vérité. J'ai aimé l'ensemble. Le couple, c'est voilà, pour moi c'est vraiment un film choral, donc c'est pas comme un film où je pourrais m'attarder que sur mon personnage. C'est parce que l'ensemble fonctionne que j'ai été séduite. Voilà, et c'est, mais Caroline a une belle évolution et c'est évidemment ça qui m'a plu aussi.
Alors on va voir que le personnage de Caroline est un petit peu, enfin le couple Caro-Philippe est un peu au cœur de ces épisodes 3 et 4 que vous allez découvrir ce mercredi. On a découvert dans les deux premiers épisodes que le Philippe n'était pas toujours fidèle quand même.
Ouais. Effectivement.
Et donc, eh bien évidemment, dans cette suite, on va s'apercevoir eh bien que le poteau rose est un petit peu découvert. Mais vous verrez, il y a beaucoup de surprises quand même. Et qu'en même temps, Caro va chercher à se venger du coup.
Tout à fait. Après, c'est pas son état d'esprit au départ. Elle aime vraiment son mari. Et c'est ça aussi qui me plaît dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elle tient à son couple. Elle veut sauver son couple. Et en même temps, elle est très blessée. Donc effectivement, elle va se retrouver dans une situation qu'elle ne maîtrise pas trop. Et voilà, elle se laisse influencer aussi par Malika, son amie. Elle va se trouver dans des situations presque burlesques. Enfin, je sais pas, ça prend une drôle de tournure. Caroline sort de son côté droit et très classique.
Et c'est pendant un anniversaire que tout va basculer, vous allez le voir. Il y a beaucoup de scènes avec les trois couples. Comment sont tournées ces scènes avec autant de personnages? Mine de rien, est-ce qu'il y a eu quelques séances de rigolade quand même? Ou alors est-ce que vous avez justement, comme vous étiez nombreux à l'image, essayé de garder votre sérieux au maximum?
Non, on a bien rigolé, quand même, je dois le dire. Après, oui, il faut être sérieux parce que le temps passe et que certains acteurs avaient des emplois du temps, comme aller jouer au théâtre le soir, donc il fallait être assez efficace, voilà. Mais après, c'est vrai que les scènes de repas, notamment, qui sont assez longues, et je pense qu'on a dû manger du curry pendant 3 jours pour une des séquences. Mais j'ai bien aimé, voilà, ce que Nadège, l'oiseau, la réalisatrice, a instauré, c'est-à-dire quelque chose de très vivant, où on mange vraiment, on se parle en même temps, on s'interrompt. Et après c'est toute une chorégraphie à mettre en place parce que voilà, il faut que chacun prenne bien sa place et qu'on se parle pas les uns sur les autres, mais on a pris, je parle aussi pour les autres, je crois, beaucoup de plaisir et c'était très vivant, donc je pense que ça se ressent à l'écran, c'est ça qu'on voit aussi, ça paraît assez réaliste, je trouve, ces scènes là
Alors, vous allez voir aussi que dans ces épisodes mercredi, il y a le babyphone qui va être un personnage à part entière de l'histoire finalement.
Oui. D'ailleurs, il y a eu un long métrage qui s'appelait Babyphone.
Exactement, qui était un court métrage au début.
Voilà, ouais.
Et on va s'apercevoir effectivement que ça a peut-être été un petit peu inspiré du film. Enfin, on ne sait pas, mais vous allez voir en tout cas que le Babyphone fait partie intégrante de l'histoire qui va suivre et de ce qui va en découler, bien évidemment, derrière. Quel est ton meilleur souvenir sur cette série, Louise?
Le tournage. Pour moi, c'est tellement une belle histoire, vraiment, justement. J'avais très envie d'aller vers quelque chose de plus léger, d'être vraiment une dramédie. Enfin, j'ai pris un plaisir chaque jour à aller sur le plateau. Vraiment, c'était le bonheur. J'ai adoré travailler avec mes mes partenaires. Et puis Nadège, ça a été vraiment un coup de cœur, la réalisatrice. J'adore comment elle travaille et comment elle a fait évoluer aussi nos personnages en dehors de l'écriture, qui était déjà vraiment superbe, je trouve. Et vraiment pas grand-chose à changer. Nadège, elle nous a encore plus tiré vers le haut et elle nous a emmené... Enfin, je sais pas, avec par exemple Caroline, qui était assez classique au départ, bon, malgré son évolution dans l'écriture, hein, qui est là, elle a lui apporté, je trouve, un petit côté excentrique qui n'est pas forcément écrit, un petit côté drôle malgré elle. Et je la remercie pour ça, parce que ça m'a vraiment amusé de jouer ça. Donc, non, vraiment, c'est une belle histoire. Espérons que voilà, les gens soient là pour nous suivre, mais en tout cas, le tournage, c'était vraiment un bonheur.
Alors on sait que les producteurs hein, de la série qui ont fait déjà Un village français aiment développer des histoires un peu au long cours. La saison 2 est déjà sur les rangs, Louise ?
Oui, si les gens sont avec nous. Voilà, je sais que... Oui, en fait, Frédéric l'a dit, c'est un secret qu'il avait... Il y avait des idées pour développer 4 saisons. Il faut que les téléspectateurs soient là, forcément.
Eh bien, soyez là, en tout cas, mercredi, moi, je vous le conseille, hein, d'être là. C'est une belle histoire que l'on vous raconte chaque mercredi. C'est à 21h05, juste après Un si grand soleil sur France 2, où ne ratez pas, vous allez voir, voilà, vous allez passer un beau moment. Et voilà, c'est vraiment beau, voilà, comme série. C'est en plus un coup de cœur hein, du Festival de la fiction télé de La Rochelle, puisque la série a obtenu le prix de la meilleure série. Ça aussi, c'est une fierté de jouer dans une série qui a obtenu un prix comme ça.
Ah ouais, vraiment. Non, c'était une belle surprise. Enfin, déjà à la projection, on était très émus parce que bon, les gens riaient pendant la projection, mais voilà, on se rendait pas trop compte à quel point les gens étaient enthousiastes. Et à la fin, au niveau des applaudissements et tout le monde qui s'est levé, ça a duré un moment. Nous, on était debout, on était très surpris et très émus parce que sur une comédie, on s'attendait pas à ça. Mais c'est pas que une comédie, il y a aussi des moments émouvants et tout, mais. Voilà, ça nous a vachement, vachement touchés. Et alors là, c'était la grande surprise de voir qu'on nous avait remis le prix. Moi, j'étais très émue et ça m'a fait plaisir de ressentir ça pour un film choral. C'était vraiment une aventure, une belle aventure humaine, voilà, aussi dans la vie. Donc, ouais, on était très, très fiers et très touchés.
Louise, on te souhaite en tout cas plein de belles choses et puis une belle histoire. Ne ratez pas Louise Monod au programme. C'est mercredi soir sur France 2. Merci beaucoup, Louise. À bientôt.
Bah merci à vous et à bientôt.
Et on va tout de suite se quitter avec la bande-annonce.
Oh, ça me reprend.
Ça va ?
Mon angine de poitrine, ça me reprend. Oh.
J'ai besoin qu'on soit sincère.
Je suis désolée pour tout à l'heure.
Tu pensais pas ce que t'as dit ?
Si, mais je crois que je l'ai pas dit comme il fallait.
Vous êtes en beauté, dites donc. Je pense que vous avez accouché récemment 15 jours.
Samuel Leclerc s'est tiré une balle dans la tête dans sa voiture.
Je suis content de rencontrer mon beauf.
Vas-y, sors !
Je suis son tonton quand même. 1000 balles ? Pour garder un paquet.
Oh. Ah, tu me vois lui dire, Philippe, j'ai un truc à te dire. Je t'ai trompé.
Et puis j'ai joui, pour la première fois.
Et mercredi, bien sûr, M6, c'est également un nouveau numéro de Top Chef. Et pour débuter cette cinquième semaine de concours, le chef doublement étoilé, Christophe Haribert, demandera aux candidats de cuisiner un plat gastronomique avec des produits que nous avons tous l'habitude de jeter à la poubelle. Bande annonce.
La semaine prochaine, les candidats vont devoir relever deux défis inédits lancés par des chefs d'exception. Dans la première épreuve, le chef doublement étoilé Christophe Haribert, qui s'est spécialisé dans l'anti-gaspillage, demandera aux candidats de cuisiner un plat gastronomique avec des produits que nous avons tous pour habitude de jeter.
C'est compliqué parce que c'est produit avec un peu de moisissure, il faut trouver un moyen de recycler.
Oh, si t'arrives à faire ça, mon vieux, t'es champion du monde.
Ils cuisineront dans un lieu magique fondé par un grand défenseur de l'environnement, Yann Arthus Bertrand. Et difficulté supplémentaire,
salut les potins,
ils devront séduire un jury composé d'enfants.
C'est moche.
Ça, c'est moche.
Ça a l'air dégoûtant.
C'est quoi le truc noir ?
Il y en a quand même un, il me demande ce que je cache.
Il y a des têtes de crevettes.
Dans la deuxième épreuve, le chef 2 étoiles et meilleur ouvrier de France, Mathieu Vianney, demandera aux candidats de réinventer un plat emblématique, l'artichaut foie gras, dont il a déjà réalisé 12 versions.
J'attends de vous que vous réalisiez la 13e version.
Pour surprendre encore le chef Vianney, il faudra que les candidats fassent preuve à la fois d'audace, de technique et de créativité.
Il manque pas grand-chose pour que ce soit un très beau plat.
Je m'attendais pas à ça, mais j'ai demandé à être étonné, donc...
Ceux qui ne parviendront pas à le satisfaire risqueront l'élimination lors de la dernière chance. Alors, quel chef perdra un membre de sa brigade ?
Wow. Allez, coup de cœur télé consacré cette semaine au Morning Night. Eh bien oui, c'est jeudi sur M6. On va revivre les belles années du Morning Live, mais en soirée, avec Mickaël Youn, qui est notre invité. Bonjour Mickaël.
Et bonjour. Alors c'est pas, on va pas vraiment revivre ces belles années. Vous allez juste retrouver vos trois copains, Vincent, Benjamin et Mickaël, qui ont toujours cet humour aussi débile. Mais c'est une autre émission, c'est un autre principe. On va pas vous faire du Morning Live le soir, on va vous faire du Morning Night. C'est-à-dire que il va y avoir quelques petites Madeleines de Proust. Peut-être que je réponds à toutes les questions d'un coup, en fait.
Ben non, t'as raison, vas-y, explique-nous.
Il y a quelques petites Madeleines de Proust. On est par exemple allé s'excuser auprès de tous les gens qu'on avait emmerdés avec le mégaphone. 20 ans plus tard, on est allé s'excuser, mais avec le mégaphone, toujours. Donc je suis allé réemmerder Juliette, les flics, les prostituées, les sex-shops, le lavomatique, le magasin de jacuzzi, tout ça. Et puis on a refait des tubes du grenier aussi. Vous savez, c'est quand on se met déguisé devant les clips des années 80. On avait envie de refaire ça, mais 12 kilos plus tard. Voilà, c'est un peu nos deux Madeleines de Proust. Mais sinon, à côté de ça, on a refait des sketchs, on a fait des fausses pub, on a tourné des clips de Fatal Bazooka, et puis surtout, on a des invités, on n'est plus que tous les trois, en l'occurrence tous les cinq, puisqu'on a intégré aussi Tom Villa et Charlotte Gabry dans notre équipe, mais on a plein d'invités, donc sur cette première émission, il y a un peu le casting de Divorce Club, parce que voilà, c'est devenu évidemment des amis, Arnaud Ducré, François-Xavier Demaison, Claudia Tagbo, Audrey Fleurot, mais il y a aussi Inès Reg, qui nous fait mourir de rire et mourir de tendresse, et puis Fifi Lachaud, que j'aime énormément, et ils sont venus s'amuser avec nous, et comme on avait envie de créer un nouveau concept, on a créé des jeux, des défis, entre ces invités, de façon à ce que il y ait un véritable enjeu dans cette émission, et à la fin de l'émission, au bout de 2 heures de combat sur l'humour, il y en a un des 6 qui va gagner une totale carte blanche de 10 minutes sur M6. Pendant 10 minutes, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Ça veut dire un coup de projecteur sur un artiste qu'il adore, ou se filmer sous la douche, ou jouer du biniou même s'il sait pas en jouer, ou se filmer en train de se curer les ongles. Il a le droit de faire ce qu'il veut.
C'est assez incroyable, parce qu'il y a longtemps qu'on en entendait parler de ce retour. Comment ça se fait que ça a pris autant de temps, Mickaël?
C'est une histoire de calendrier, d'emploi du temps qu'on n'arrivait pas à faire coïncider. Et puis Benjamin Morgan, qui produit l'émission, a su trouver la bonne méthode. Il a réservé le studio, il a payé le studio. Il m'a dit, mec, tu peux pas me faire ça, tu peux pas me planter. Donc on a été obligé d'aller tourner et d'écrire l'émission. Et on a, je peux vous le dire, beaucoup travaillé pour vous proposer ce que vous allez voir jeudi. On a bossé pendant 5 mois pour 2 émissions. C'est, on a tourné plein de magnétos, on a imaginé des tonnes de blagues. C'était la première, donc il y a à la fois beaucoup d'émotions, beaucoup de stress aussi, beaucoup de désir. On a tourné ça dans les conditions du direct parce qu'on voulait quand même que ça garde la saveur de ce que vous connaissez chez nous. Et puis on espère que voilà, on va en tourner d'autres et qu'on pourra rajouter toujours plus de folie. En tout cas, ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'on a tourné en totale carte blanche, que M6 n'est pas intervenu sur la ligne éditoriale, et donc on a pu se permettre exactement tout ce qu'on voulait se permettre.
Ils ont été heureux de votre retour, M6, ils ont tout de suite dit oui.
Ils ont tout de suite dit oui. Après, non, ils ont regardé quand même ce qu'on voulait leur proposer, mais ils ont été des super partenaires de ping-pong, j'ai envie de dire. On s'est quand même échangé la balle pour essayer de créer la meilleure émission possible. Parce que vous allez voir que c'est un nouveau format. On a créé une sorte de comédie game show. C'est un mix entre le Saturday Night Live et Interville. Voilà. Pour bien vous expliquer, je pense que c'est le mariage de ces deux émissions et ça s'appelle Morning Night.
À l'époque, il y avait rien qui t'arrêtait. Là, sur ce Morning Night, pareil, il y a rien qui t'arrêtait, ou il y a des choses que tu t'es interdites quand même.
On est en prime time, donc on n'a pas envie non plus de choquer tout le monde, mais on s'est pas vraiment censuré. Moi, de toute façon, avec Vincent et Benjamin, on n'a jamais fait d'humour qui se moquait d'une communauté ou qui se moquait d'une personne. Ça a toujours été beaucoup d'humour transgressif, voire trash, qui se moquait de nous-mêmes.
Potache même souvent.
Donc là, on s'est rien autorisé, on s'est rien interdit, je veux dire. On est toujours pipi, caca, vomi, ça n'a pas changé. En revanche, ce qui a changé, c'est que maintenant, on ne joue plus avec la nourriture. Voilà, depuis que je fais partie des Enfoirés, on joue plus avec la nourriture. J'ai pris conscience qu'il y avait des personnes que ça choquait, donc on fait attention à ça, et donc il y a tout un jeu autour de la cuisine et de la nourriture, mais c'est fait avec du slime, des boules de polystyrène, des balles de ping-pong, des fruits et des légumes en plastique, de la dinette pour enfants, etc.
Merci à toi Mickaël.
Merci à vous, gros bisous.
Et le Morning Night, c'est jeudi à 21h05 sur M6. Bande annonce.
Ah, c'est vous? Votre ami a beaucoup changé depuis tout ce temps.
Je vous préviens, ça va faire un choc.
Ma sœur, une petite visite pour vous.
Mika, c'est nous, c'est Vincent et Benjamin.
Oh là là.
Mais qu'est-ce que vous faites là, au juste?
On a négocié notre grand retour sur M6.
Bien soit alors. S'il en est ainsi,
je repars avec vous, les amis. Je reviens tout de suite.
Mon précieux.
Attention, ils reviennent. Le Morning Night, bientôt sur M6.
Et jeudi, eh bien, ça sera également les épisodes 3 et 4 de la saison 10 de Profilage. L'occasion pour Jean-Michel Martial de faire un dernier tour de piste avant son décès. Un très bel hommage, en tout cas, de pouvoir revoir, eh bien, une des dernières scènes de Jean-Michel Martial dans Profilage, qu'il a partagé, d'ailleurs, avec Scheim. Et je vous en propose tout de suite, eh bien, un petit extrait. Profilage, épisode 3 et 4, c'est jeudi sur TF1.
Je sais pas à quoi tu joues, mais une DPJ, c'est pas un camp de vacances. On a passé un accord avec le juge d'instruction.
Ah non, non, non. J'ai passé un accord avec le juge pour faire tomber Fraisse et tout son réseau. Toi, t'as rajouté cette clause stupide à mon contrat derrière mon dos. C'est pas la même chose.
Quoi qu'il en soit, j'ai engagé ma responsabilité. Tu veux que je te rappelle les termes de ton amnistie? Ah, tu veux que j'appelle le juge?
Ah bah ouais. Rappelons-le, le juge. Je sens que je pourrais le convaincre que je serais plus utile ailleurs.
Pour recommencer ta magouille et truander tout le monde à la première occasion? Hors de question. Tu restes sous ma responsabilité.
Ok, ce sera tes risques et périls, hein. De toute façon, dans une semaine, c'est toi qui me supplie de partir. Je suis pas psy, j'ai jamais été psy, et j'ai aucune intention de le devenir.
Ouais, c'est ça. Hein, c'est pour ça que ta thèse en sciences comportementales a été publiée. Hein. C'est pour ça que t'as été excellente sur les deux dernières enquêtes. Ah, au fait, tu sais, sur l'affaire du Gommier. Eh ben, c'est toi qui avais raison. Tu vois, on a retrouvé l'arme du crime chez la belle-sœur.
La chance du débutant, hein. Tu connais.
Et vendredi sur Koh-Lanta, c'est l'île des héros et ses parties et surprises sont au rendez-vous, notamment du côté des novices qui ont été stupéfaits de voir les héros arriver et se mêler à eux et plutôt ravis dans l'ensemble de cet événement inattendu. Les anonymes n'en ont pas pour autant perdu leurs moyens et certains ont même fait une belle illustration de leur tempérament. Voici tout de suite un petit extrait de ce qui vous attend vendredi sur TF1 dans Koh-Lanta.
Go ! La semaine prochaine, les rouges vont déchanter.
N'importe quoi, vous allez en minorité, vous allez vous faire dégommer à la réunif.
L'élimination de Théoura divise la tribu.
Il a la haine, Claude. Je pense qu'il voudra venger Théoura.
Je m'allie au jaune, je te défonce tout seul. Tous les rouges, un par un, ils vont tous sortir.
L'alliance d'Amad est mise à mal.
Amad, il est physiquement, il est à la rue.
C'est le plus faible.
Claude, tant qu'il peut semer le chaos, tant qu'il peut nous diviser, il le fait. C'est son jeu.
Et le mauvais temps s'invite sur les camps.
La parole, elle va tenir ou pas?
Koh-Lanta, surprise, compétition, et dépassement de soi.
Vous dormez !
Allez ! On lâche rien là !
C'est le vendredi à 21h.
On va venger le Polynésien.
Sur TF1.
Y'a pas de fatigue qui soit !
Et en attendant également vendredi, c'est Astrid et Raphaël, fort de son carton hein, pour le retour de la série. Eh bien, Astrid et Raphaël revient sur France 2 pour un épisode 3 et 4 inédit avec Sarah Mortensen et Lola Dever toujours au programme. Et le chaînon manquant et la chambre close seront donc les deux thèmes de ces deux nouveaux épisodes dont je vous propose tout de suite un petit extrait.
Vous êtes en rupture de bol en bois de cèdre, diamètre 12 cm, monsieur Tanaka.
Merci, mademoiselle Nielsen. Je vais passer la commande.
Et vous avez reçu les boîtes de thé en bambou.
En effet.
Au prochain inventaire, je vous la laisse, promis. Vous l'avez en grand?
Je peux te demander un truc? Je peux te confier une mission. Une mission un peu off.
Pas de problème.
Sans poser de questions. Hein.
Ok.
Tu me trouveras des infos sur cette femme.
Mathilde Nielsen.
C'est qui? C'est sa sœur?
Tu vois.
Mais dites-moi qui c'est.
Sans poser de questions, j'ai dit.
C'est sa sœur?
Non, mais juste...
Comment l'encosse? Un cadavre? Quelle adresse? Ok, on arrive. Pourquoi ça me dit quelque chose de Rubuffon?
C'est le Muséum National d'Histoire Naturelle. On fait dans les dinosaures, nous, maintenant.
Allons-y.
Et on va se retrouver dans un tout petit instant pour évoquer le court-métrage bientôt diffusé sur OCS Dernière Ligne Droite avec Arnaud Mison, son réalisateur, et Louise Martin également qui joue dans ce court-métrage. Alors surtout, vous ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le rendez-vous des stars c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, coup de cœur pour un court-métrage cette semaine qui va être diffusé sur OCS. Ça s'appelle Dernière ligne droite. Alors, on a eu la chance, nous, de le découvrir au Festival de Alpes d'Huez. Et on a aujourd'hui bien toute l'équipe qui est avec nous, Arnaud Mison, le réalisateur. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Merci d'être avec nous. Une comédienne que moi j'adore, qu'on a découvert dans Tamara 1 et 2. Elle a foulé le parquet de Danse avec les Stars avec grand brio. Héloïse Martin. Bonjour Héloïse.
Bonjour, ravie d'être là.
Merci d'être avec nous. Et puis le directeur de ce centre d'auto-école qu'on va découvrir, c'est Patrice Revaux qui est avec nous. Bonjour Patrice.
Bonjour et merci.
Merci d'être avec nous. Dernière ligne droite. On va dire que c'est presque un échantillon de ce que pourrait devenir peut-être un long métrage par la suite. C'est en tout cas tout ce qu'on vous espère parce que on a trouvé le sujet plutôt prometteur. Sujet que tu vas nous développer un petit peu maintenant, Arnaud.
Eh ben merci. Bah oui, on rêve de faire ce long métrage. On verra bien. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un format court, donc on est très très content. Bah le sujet, c'est très simple. Le vrai sujet, c'est la responsabilité. Donc c'est vraiment qui est responsable dans un accident. Ça, c'est très important. Après, le sujet est matérialisé par l'auto-école et je me suis amusé à penser que qui serait responsable dans un accident d'auto-école le jour du permis de conduire, à votre avis? Et vous, les auditeurs, je vous pose la question là en direct, c'est qui? Non, mais c'est vrai. Donc ça m'amusait de savoir un petit peu l'essence en fait de l'être humain, parce que je crois qu'on connaît pas vraiment les gens qui nous entourent jusqu'au moment où il y a une situation de grande adrénaline et là il y a l'essence de l'être humain qui apparaît. C'est-à-dire que si demain, par exemple, vous faites un covoiturage, vous connaissez personne dans la voiture, d'accord, vous renversez quelqu'un. Et bah là, en 30 secondes, vous voyez vraiment la vraie nature des gens. Et c'est ça qui m'intéressait. Et puis je l'ai vraiment abordé sur un genre de la comédie parce que je crois que c'est important de se marrer en fait. Donc je voulais vraiment. C'est super important de rire dans la vie.
Exactement, puisqu'on va rire sous fond sérieux finalement. Héloïse, t'as joué déjà quand même avec pas mal de beau monde, mais là Gérard Darmon quand même.
Gérard Darmon, c'est quand même assez incroyable. C'est une icône pour moi, une icône du cinéma français. Je pense que jamais, à mon âge, j'aurais pu penser un jour tourner avec lui. Donc merci Arnaud pour cette rencontre, pour ce film.
Merci à toi, Héloïse. Congratulons-nous.
Trop d'amour. Non, c'était assez incroyable. Et il est génial. Il nous a fait rire du matin au soir. Il était avec nous. Il n'y avait pas de différence. Il y avait... Non, c'était juste incroyable. Du coup, ça donne envie de repartir sur un projet avec lui.
T'as une anecdote particulière d'une scène avec lui ?
J'ai une anecdote, pas d'une scène, mais d'un moment sur le tournage. C'est qu'à un moment donné, on est en train d'attendre une scène et il a lancé une partie de pétanque. Et du coup, on s'est tous mis à jouer à la pétanque sous le soleil en septembre à Lyon. C'était incroyable. C'était un moment assez unique, ouais.
C'est des moments improbables, évidemment. Alors Patrice, toi tu as le rôle du responsable de l'auto-école qui panique parce qu'évidemment, il n'y a plus de nouvelles de personne. La voiture a disparu des écrans radars et tu te demandes bien ce qui se passe.
Exactement. Et en fait, moi je suis un peu le personnage qui veut bien faire et en voulant bien faire, ça va desservir totalement le trio dans la voiture en fait. Qui tente de sauver une situation. Donc moi, je suis un peu l'élément à distance perturbateur quand même.
Alors, on rigole beaucoup dans cette voiture parce qu'il y a quasiment, elle est sur les 16 minutes, il y a une dizaine de minutes vraiment où c'est le trio qui est à l'intérieur de cette voiture entre Gérard, Caroline et Héloïse. Et là, rien qu'à l'écriture, vous avez dû vraiment vous amuser rien qu'à écrire les textes qu'il pouvait y avoir ou même les gestes qu'a pu faire Caroline par exemple.
Oui, des gestes vraiment anodins, comme voilà, elle mime le fait de chanter avec plusieurs micros.
C'est joliment dit, je trouve, Arnaud.
Voilà, c'est ce sont des choses là qui peuvent arriver dans une vie, hein, chanter avec plusieurs micros. Non, je me suis amusé parce que bon, moi à la base, je suis comédien et du coup, j'adore les dialogues. Je trouve que c'est hyper important de bien dialoguer un scénario, que les comédiens s'approprient très rapidement ce texte parce que ça soit vraiment assez instinctif. Et c'est vrai que ça donne envie d'écrire beaucoup de situations en fait, parce que comme c'est trois personnes au final qui se connaissent pas vraiment dans cette voiture. Ça donne envie de les découvrir à travers en fait tout ce chemin que doit établir l'auto-école le temps d'un trajet d'un examen. C'est ça qui était hyper intéressant. Et après la contrainte elle était dure parce que c'est une seule unité de temps et je me disais ça donne envie d'écrire tellement plus qu'il fallait quand même trouver les scènes qui étaient hyper importantes dans la narration des faits parce que sinon on va très très loin hein, dans l'écriture. Hein.
C'était déjà tout était écrit, tout était là, tout il y avait plus que la base en fait.
Du coup, improviser un tout petit peu à certains moments ou...
J'ai pas le souvenir d'avoir improvisé vraiment tous les trois. Le texte était là, c'était très clair, c'était parfaitement écrit. Du coup, pour nous, c'était une aide et c'était. En fait, on n'avait plus qu'à s'amuser avec le jeu. On
a pu. Avec Caroline.
Et avec Caro, bah, c'est devenu une super copine maintenant. Caro, le duo, enfin, je le trouve génial. C'est un peu l'élève qui prend le dessus sur le prof. Et j'aime bien du coup ce duo. Voilà.
Patrice, souvenir toi de tournage particulier?
Tout le tournage en lui-même. Et c'était juste incroyable de faire ces deux scènes avec Gérard Darmon. Enfin, pour moi, ça reste un rêve assez incroyable. Surtout, en plus, dirigé par Arnaud, qui à côté est mon meilleur ami. Donc, forcément, toutes les conditions étaient réunies pour faire un tournage de rêve.
Alors, la question que tout le monde peut se poser, si tu fais un long, il y a une belle histoire à l'Alpe d'Huez, par exemple, qui s'est déroulée. C'est Babyphone, qui a été présenté en cours. Qui est devenu un long, qu'Olivier Casas est venu présenter ici, avec tout le casting d'origine. Donc je suppose que toi, tu as envie, évidemment, si tu développes ce long, de retrouver tout ton casting d'origine.
Pas vraiment.
Et là, Héloïse, elle a un blanc, tu sais. Et là, Héloïse qui est en train de trembler, qui est en train de se dire, va-t-il dire oui, va-t-il dire oui?
Non.
Non, il a dit non, t'as vu, il a dit non.
Non, mais la route pour aller jusqu'au long métrage, c'est le cas de le dire, elle est très longue. Enfin, on verra, en fait, il y a beaucoup de travail, pour l'instant c'est un court métrage et on rêve terriblement de faire ce long métrage.
Est-ce que tu garderais?
Mais si la question est posée et si je dois y répondre, bien sûr, c'est évidemment. De toute façon, moi j'ai écrit, de toute façon c'est très simple, j'ai écrit ce court métrage pour ces acteurs, donc j'écrirai pas le long métrage de ce court métrage pour d'autres acteurs. Moi c'était moi qui étais demandeur, hein. Quand j'ai écrit Héloïse, je lui ai dit écoute, j'ai écrit un rôle pour toi, lis-le. Je l'ai fait pour toi, donc oui, effectivement, si tu me dis non, j'irai voir quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi en fait ce rôle-là, oui ou non. Donc oui, effectivement, je réponds à la question. Si un jour, et qu'on a beaucoup de chance, et qu'on rêve, et que ce rêve se réalise de faire ce long métrage, à ce moment-là, oui, je prendrai les mêmes acteurs, bien évidemment. Et tout le cast, hein, c'est-à-dire que le cours fonctionne tellement bien que je vois pas pourquoi, enfin, le mieux est l'ennemi du bien, donc j'irai sur les mêmes acteurs, bien sûr.
Héloïse, c'est des projets pour 2020 qui arrivent. Est-ce qu'on peut un jour peut-être espérer revoir Tamara dans de nouvelles aventures aussi, dans des aventures adultes, pourquoi pas aussi?
Pour 2020 déjà, là je suis en train de tourner à la série Grand Hôtel, qui sera sur TF1 et Netflix.
C'est le prochain grand événement, voilà. À l'instar du Bazar de la Charité, ça va être le prochain gros projet de TF1 pour l'automne prochain.
C'est exactement ça. Et ensuite, pour parler de Tamara, avec l'équipe, je sais qu'on a déjà parlé d'un Tamara 3, mais pour dans très longtemps, peut-être comme avait fait l'équipe de Bridget Jones, les retrouver 10 ans après avec peut-être une histoire de bébé, de mariage, un truc plus adulte, ouais. En tout cas, moi, j'adorerais.
Et la danse,
eh bien.
T'as pratiqué un petit peu ou pas?
Ah oui, pas qu'un peu. Bah, je suis restée très copine avec l'équipe de Danse avec les Stars, donc dès qu'il y a une soirée, dès qu'il y a une occasion, c'est parti pour un petit cha-cha. Ça, je continue, ouais.
Et pour toi, Patrice, les projets pour 2020?
Je mise tout sur le long métrage Dernière Ligne Droite. Hein.
Ça, c'est pas mal dit. Tu viens de lui mettre une pression à Arnaud absolument hallucinante. Et ben, c'est très bien dit. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'être passés nous voir. Ne le ratez pas, ce court-métrage. Il vous est diffusé sur OCS cette semaine. Et vous allez bien rire. Et croyez-moi, au bout de 16-17 minutes, vous aurez très vite envie de voir comme nous, eh bien, une histoire développée sur la longueur. Donc voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous les trois. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
J'étais dans la gratitude. Et merci à tous qui nous écoutent.
En fait, ça prouve qu'ils avaient dû faire du bon travail, hein.
Ah ouais. Ça je peux pas vous dire s'il était bon, mais en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce que j'ai été utile? Là, j'en sais rien.
Et pour voir Dernière Ligne Droite sur OCS City, rendez-vous le 25, 26, 27 et 28 mars à 11h et 16h30, le 29 mars à 16h15 et le 30 mars à minuit et quart.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et vous comprendrez évidemment qu'à ce stade, il nous est très difficile de pouvoir vous donner un sommaire pour notre émission de lundi prochain. On va essayer de travailler d'arrache-pied pour vous proposer en tout cas une émission, ça c'est sûr. Alors restez connectés évidemment avec nous sur tous nos réseaux.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain pour les quotidiennes à 7h45, 12h45 et 18h45 sur Radio Vallée-Vézère. Retour de l'hebdo lundi prochain à partir de 11h, rediffusion à 19h. Sur ce, je vous souhaite un excellent appétit à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Sarlat, votre spécialiste culture, CD, DVD, jeux vidéo et librairie, sur plus de 600 mètres carrés au cœur du Périgord noir. Retrouvez votre espace multimédia dans votre hypermarché Leclerc Sarlat Les Deux Gares. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques Tout sur la Noix, votre spécialiste huile de noix, confiserie, biscuiterie et chocolaterie à base de noix. Tout sur la Noix, c'est 3 points de vente à Sarlat et sur noix-délices.com.